Mémoire vive,
présentée par Irène Omelianenko
et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, aujourd'hui nous allons partager un peu du destin d'un homme dont le parcours fulgurant fut brutalement interrompu pour des raisons dont le cœur est un antisémitisme virulent. Cet homme, de fait, n'est pas véritablement juif, puisque sa mère, Alice Chartrain, est le fruit d'une famille protestante réfugiée en Beauce après les persécutions religieuses ayant suivi la révocation de l'édit de Nantes. Le père de Jean Zé, puisqu'il s'agit de lui, est un juif laïque d'origine alsacienne. Si l'on trace la vie de Jean Zé à grands traits, avant d'aborder la période de la persécution, on peut dire le franc-maçon, qui devient avocat, épouse en 1931 Madeleine Dreux, dont il aura deux filles, s'engage avec ceux qu'on appelle les jeunes turcs, cette aile gauche du parti radical, et devient à 31 ans le plus jeune ministre de la Troisième République. C'est Léon Blum lui-même qui annonce à Jean Zé qu'il lui est confié l'éducation et les beaux-arts. De ce ministère sont nés de grands projets dans l'éducation, la création de l'ENA, la réforme du droit d'auteur, le Palais de la Découverte, le Musée des Arts et Traditions Populaires, et pour contrer un festival de cinéma italien alors très fasciste, le projet d'une rencontre internationale de cinéma à Cannes. Il faut ajouter dans la droite ligne du Front populaire la création des maisons de jeunes, l'incitation au tourisme populaire et au camping. Tous ces projets seront taxés d'emblée par une partie de la droite de politique juive. La suite, c'est à sa fille, Hélène Zé, ou plutôt Hélène Mouchard Zé, que nous allons dans ce mémoire vive demander de nous la raconter. Qu'est-ce qui a conduit Hélène Mouchard Zé, votre père, de ce poste exceptionnel au ministère jusqu'à une prison à Clermont-Ferrand?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, ce qui l'a conduit, c'est que, bon, à la déclaration de guerre en septembre 1939, il n'était pas mobilisable puisqu'il était ministre. Mais il tient à s'engager en disant, et c'est la lettre qu'il écrit au président du Conseil, qu'il souhaite partager le sort de la classe de ces jeunes pour lesquels il s'est battu pendant toutes ces années. Donc il part volontairement à l'armée et il fait la drôle de guerre comme tous les jeunes militaires de cette période. Et alors tous les témoignages de ces chefs militaires montrent qu'il a fait avec courage, volontaire pour toutes les missions périlleuses, etc. Et arrive juin 1940. Le 19 juin, il est chargé d'une mission par son commandant. Je ne sais pas si c'est un commandant, mais enfin bon.
Son supérieur.
Il est chargé d'une mission de repérage en pleine débâcle, hein, puisque le 19 juin, la défaite est déjà écrasante. Et il apprend en cours de route que le Parlement est convoqué à Bordeaux, où le gouvernement s'est réfugié. Il pense donc que c'est de son devoir d'y aller, puisque le devoir de parlementaire prime celui du soldat. Et donc il se rend à Bordeaux, où là, il apprend qu'un bateau, le Massilia, a été affrété par le gouvernement, tout à fait officiellement, avec toutes les autorisations, et qui doit partir en Afrique du Nord pour continuer la guerre. C'est l'époque que tout le monde connaît maintenant, parce que ça a beaucoup été rappelé, de ces quelques journées de juin, où il y a une lutte farouche entre les partisans de l'armistice et les adversaires de l'armistice, et où on le sait finalement, c'est la ligne de Pétain, et en l'occurrence de Laval, qui va l'emporter. C'est une question d'heure. Hein. Mais ce bateau a été affrété et il va partir le 21 juin. En fait, il est bloqué. Ils embarquent le 20 juin, mais il va partir le 21 juin. Alors que Laval a déjà convaincu Pétain de ne pas partir en Afrique du Nord. Mais on laisse partir ce bateau parce que le gouvernement qui vient de se former transforme en piège ce départ du Massilia, une bonne occasion de se débarrasser d'adversaires de l'armistice dont le nouveau gouvernement sait qu'il sera hostile à sa politique. Parmi les gens qui embarquent, il y a tous les services de la Chambre des députés, etc. Il y a en particulier 4 parlementaires donc mobilisés, parce qu'à l'époque, on pouvait être parlementaire et ministre, donc mon père était resté parlementaire. Et il y a en particulier Mendès France, qui est sur ce bateau, et d'autres. Et puis, rappelons qu'il y a aussi Mandel, avec son buste de Clémenceau, etc. Et donc, à l'arrivée au Maroc, puisque c'est à Casablanca que le... Oui, en route, les parlementaires présents et d'autres apprennent que l'armistice vient d'être signé. Et donc, ils flairent le piège, là. Demande à télégraphier, mais le commandant dit impossible de télégraphier, toutes les communications sont coupées. Bref, au moment où ils arrivent à Casablanca, ils sont arrêtés, enfin je résume, hein, parce que c'est une histoire assez compliquée. Ils sont arrêtés. Et le 25 juillet, mon père va apprendre par la radio que les parlementaires, donc les quatre parlementaires sous les drapeaux, vont être poursuivis pour désertion. Il sera arrêté le 15 août 1940, donc à Rabat. Il n'a pas le temps de prévenir sa famille. Ma mère est à Rabat à ce moment-là, avec ma jeune sœur qui n'avait pas 4 ans, et enceinte de moi-même. Donc ça se passe quoi, 15 jours, 10 jours avant ma naissance, qui va se passer dans des conditions, je vais dire, très rapidement. Donc on l'arrête et on le transfère à Clermont-Ferrand. Ma mère, elle, donc, va rester seule et va accoucher dans des conditions terribles qu'on voit, dans un pays où elle ne connaît personne, l'angoisse de ce départ. Une campagne, vous en avez parlé, mais qui se déchaîne contre ces juifs déserteurs qui ont fui le combat alors qu'ils ont... Ils sont responsables de la guerre. Une accusation qui a toujours été portée contre mon père, c'est l'accusation de bellicisme, parce que dès Munich, il a manifesté son hostilité aux accords de Munich. Donc c'est le belliciste, on connaît bien cette thématique de l'antisémitisme. Et cette campagne est tellement violente qu'elle a beaucoup de mal à trouver une clinique qui l'accueille. Ça, c'est Mendès France qui raconte ça dans le film Le chagrin et la pitié, puisque... Mendès France était aussi au Maroc avec sa femme et ses deux fils aussi. Enfin, elle va finalement trouver un endroit où accoucher grâce à l'aide d'une famille de juifs marocains dont je garderai toujours le souvenir, qui s'appelait les Hamzalag, hein, que j'ai cherché à revoir, mais je n'ai pas réussi à les revoir après. Lui est transféré à Clermont-Ferrand et là, immédiatement, alors qu'ils étaient quatre, c'est lui qui va être jugé le premier. Les autres, Mendès France ne sera jugé qu'en mai 1941. Et les autres un peu plus tardivement. Donc, une instruction complètement bâclée. Quand il comparait pour la première fois devant le juge d'instruction, il a en effet le sentiment que tout est fait. Il essaie de s'expliquer longuement de cette accusation de désertion qui est folle, puisqu'il s'est engagé. Alors, en plus, c'est assez compliqué, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais comme rapidement, on a voulu l'accuser sur l'affaire du Massilia. Puis rapidement, même à Bordeaux, le 10 juillet à Vichy, l'Assemblée générale qui vote les pleins pouvoirs à Pétain, Laval est obligé de reconnaître que le Massilia est parti tout à fait légalement. Donc, on renonce à ça et on l'inculpe de désertion en présence de l'ennemi. L'ennemi, le 19 juin, l'armistice était pratiquement signé. Ça ne se justifie même pas.
Alors, il faut dire que vous avez eu accès aux archives du procès. Vous êtes une des rares, en fait.
Ma mère avait gardé dans ses archives personnelles un certain nombre de pièces que, par l'avocat, je pense, sur un avocat qui était Maître Varenne. Et puis, en effet, j'ai consulté au Blanc, aux archives militaires du Blanc, le dossier du procès, qui est consultable, mais avec dérogation. Moi-même, il a fallu justement d'une dérogation.
Et cette année, aux rencontres de Blois, il va y avoir une communication
sur ce procès.
Ce procès, ses archives.
Voilà. Oui, parce que par ailleurs, on a donné nos archives, on a fait don aux archives nationales de nos archives personnelles. Donc, il y a les deux sources, mais les archives du Blanc, évidemment, sont beaucoup plus complètes. Et ce procès est exemplaire, je crois, et dit beaucoup sur ce premier Pétain, dont on a dit que peut-être il n'était pas aussi... Enfin, sans parler de découvertes récentes. Mais on voit que, mais vraiment immédiatement, c'est sans doute une des premières victimes politiques de Pétain. Puisque, comme le dit Antoine Pro, il est l'objet de toutes les haines de ce nouveau régime, puisqu'il est juif, même si, selon même le statut des juifs de Vichy, mais il n'a jamais démenti quoi que ce soit, bien évidemment, juif, franc-maçon, de gauche, Front populaire, et de plus, ministre de l'Éducation nationale, ce qui, dans la thématique antisémite, est particulièrement important. J'en prends pour preuve un exemple. à un avocat qui disait au président du tribunal militaire qui l'a condamné donc à la déportation, qui disait que cette peine lui semblait quand même un petit peu sévère, il a dit « Mais vous oubliez que ce garçon a corrompu la jeunesse française pendant 4 ans, textuellement. » J'ai vu ça dans le dossier. Donc on voit bien qu'il a été condamné pour tout ça. Et c'est un procès totalement, selon toutes les règles de la justice, totalement inique. Le procès a duré une journée. Même les témoins cités à charge sont devenus à décharge d'une certaine façon. Et lui est très confiant. Ça, on le voit dans la correspondance qu'il échange quelques jours après. Et puis le verdict a été pris, la délibération a duré 6 minutes, je crois, et encore à peine. Bref, tout était fait à l'avance.
Et au final, votre père est donc en prison d'abord à Clermont, puis à Marseille. Mmh. Va y passer très très longtemps. Un temps qu'il a mis à profit de façon absolument hallucinante pour écrire, réfléchir, penser. C'est un ouvrage qui s'appelle « Souvenirs et solitude », qui est épuisé aux éditions de l'Aube, mais qui va bientôt être réédité en livre de poche, où à la fois on peut voir la vie de la prison, parce que c'est un homme attentif aux autres, attentif à l'ordinaire, un homme qui réfléchit au passé, qui nous redonne un éclairage sur cette période du ministère, et qui réfléchit aussi au futur. Alors quand il y a eu le procès, moi je ne résiste pas, j'avais mis de côté une page que je voulais vous lire parce que je pense qu'elle résume bien ce qui s'est passé. Il écrit, c'est donc le 10 mai, je pense, 40... Alors, je vais essayer de retrouver l'année assez rapidement. Voilà, 41. « Ministre pendant 4 ans, cible notoire de la campagne antisémite. Bien que protestant, comme le fut toute mon ascendance maternelle, mais j'ai toujours tenu à l'honneur de ne rien démentir sur un pareil sujet. Je fus gratifié d'un procès hâtif et spécialement corsé, terminé par la peine maximum de la déportation. Ancien sous-secrétaire d'État israélite, Mendès France se voit infliger 6 ans de prison sans sursis. Ancien sous-secrétaire d'État également, mais non israélite, Viennot s'en est tiré avec 8 ans de prison avec sursis. Quant à Wilzer, député modéré de la Moselle, non israélite, et qui n'avait jamais appartenu au gouvernement de la République, on lui octroya un non-lieu. Ça dit bien à quel point, quand on parle d'antisémitisme, on n'est pas dans un fantasme. Mais à cette époque-là, c'était vraiment le mode de jugement, le mode de vie. J'aimerais revenir avec vous, Hélène Mouchardé, sur cette période de la détention, dont vous n'avez peut-être pas beaucoup de souvenirs, mais vous étiez une petite fille, votre maman allait voir votre père en prison, j'imagine que c'est quelque chose qui est inscrit en vous d'une manière ou d'une autre.
Oui, bien sûr. Ma mère avait obtenu, grâce à son avocat, pour quelques mois, parce que le régime s'est beaucoup durci après, donc les visites sont devenues impossibles. Mais pendant la première année en particulier, les visites étaient possibles. Donc ma mère, qui était seule donc avec ses 2 très jeunes enfants, qui ne l'a rejoint qu'en mai 1941... Donc, pendant ce laps de temps de d'août 40, mai 41, ils échangent une correspondance journalière, quotidienne, qui est évidemment extrêmement riche, à la fois personnelle et aussi politique, enfin historique, qui a un intérêt historique. Donc, elle obtient l'autorisation de le visiter. Il a reçu aussi d'autres visites. Donc, très souvent, en effet, elle venait le voir. Elle avait aussi l'autorisation de lui apporter un petit peu à manger. Ma sœur Catherine, qui était un peu plus âgée que moi, allait à l'école. Et très souvent, elle me laissait dans cette cellule et elle allait, elle, vaquer un certain nombre de choses. Donc, en effet, j'ai passé des heures et des heures. J'ai, au fond, passé mes 3 premières années entre ces 4 murs, pas tout le temps, mais beaucoup. Et c'est, en effet, quelque chose que j'ai réalisé assez récemment. Parce que quand on me disait « Est-ce que tu as connu ton père ?», je disais « Non, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai en effet connu. » C'est bien sûr inscrit très profondément en moi, ne serait-ce, et je l'ai vu rétrospectivement par une sorte d'intérêt un peu pour la prison, enfin pour cette problématique-là, etc., mais pour d'autres raisons aussi. Et donc, en effet, je suis retournée à cette prison grâce à une amie américaine qui avait demandé l'autorisation. Je ne l'aurais jamais fait moi-même, certainement. Et quand je me suis retrouvée dans cette cellule qui n'avait pas bougé à l'époque, maintenant, parce qu'il y avait une petite cour où il cultivait 4 radis, un petit saule, parce qu'il a fallu qu'il résiste pendant ces 4 ans en prison, qui ont été une détention extrêmement difficile, angoissante, avec toutes sortes de péripéties. il a, voilà, j'ai été là. Et on a des photos, en effet, assez nombreuses de la prison que ma mère sans doute a prise. Mais je voudrais dire, et vous avez parlé de ce livre, qu'en effet, l'écriture pour lui a été certainement quelque chose de fondamental. Quand il était très jeune, il aimait écrire, et on a quelques écrits. Et il a fallu un moment qu'il choisisse entre l'écriture, qu'il a beaucoup exercée via le journalisme aussi, et la vie politique. Et la vie politique l'a emporté. Chacun sait qu'on n'a pas trop le temps. Donc là, il a retrouvé aussi ce plaisir de l'écriture, je crois, dans ce livre et dans d'autres formes d'écriture qui seront publiées dans un prochain volume l'année prochaine.
Et puis la fin de l'histoire est tragique.
Oui, les attaques antisémites n'ont jamais cessé. En 1942, Philippe Henriot publie des notes qu'il avait prises au moment de Munich, où il se montre hostile à Munich, favorable à l'intervention en Espagne, etc. Donc la propagande antisémite contre lui ne cesse jamais, ce qui était une façon de le désigner au bras des assassins. En tout cas, le 20 juin 1944, il y a 4 miliciens munis d'un ordre signé en haut lieu de la milice qui viennent le chercher dans sa prison.
Et votre père croit qu'il va sortir libre.
Il ne sait pas parce que c'est un ordre de transfert pour la prison de Melun. On sait que la prison de Melun n'a jamais été avertie. Donc l'assassinat a été programmé. Et il suit donc ces hommes qui, dans la voiture, et ça on l'a su par le témoignage d'un de ces assassins des années après, qui lui disent « En fait, on est des amis, on vient vous faire évader ». Mais il comprend assez vite qu'on ne prend pas le chemin de Melun, qu'on s'enfonce dans la forêt près de Vichy, à Cussé. Et là, les assassins le font descendre, le font monter au cœur de la forêt, dans un endroit qui s'appelle le Puy du Diable. Et là, il y a un premier coup de matraque. Donc il comprend que, comme il le dit, vous n'êtes donc pas des amis. Et une rafale de mitraillette là-bas. Les assassins jettent son corps au fond du Puy du Diable, vont retourner à Vichy chercher du plastique pour effacer toutes les traces. Et ce corps sera retrouvé de façon anonyme 2 ans après, en 1946, enterré de façon anonyme à Cussé. Et c'est seulement en 1948, quand un des assassins de Velle est arrêté, qu'il révèle les circonstances de l'assassinat. Donc ce corps, c'était bien Jean Zay. Voilà ce qui s'est passé. Simplement pour mémoire, il ne sera jugé qu'en 1953, avec toute une série de péripéties judiciaires. 53, il faut se rappeler que c'était l'époque où... Et alors que la peine de mort est requise contre lui, bon, je ne suis pas favorable à la peine de mort, mais la peine de mort... Il sauve sa tête, comme disent les journalistes, circonstances atténuantes. Son avocat Floriot plaide l'irresponsabilité en disant qu'il a été victime, cet assassin a été victime de la propagande des idéologues de l'époque. Et donc, ma mère n'a jamais voulu savoir ce qu'il était devenu, mais d'après certains, ce qu'on nous a dit, il a dû sortir assez rapidement.
Or, votre mère avait essayé d'intervenir bien avant ce procès, déjà.
Oui, au moment du procès Pétain, elle demande à être entendue comme témoin, parce que pour elle, Pétain, en gardant mon père en prison, avec toute cette haine qui l'entourait, évidemment, l'avait maintenu auprès des assassins. Le président Mongibaud refuse de lire son témoignage, même de lire, en disant « Le tribunal ne doit pas être influencé par des cris de vengeance, si juste soit-il. » Elle ne criait pas vengeance, elle criait justice. Elle n'a pas été entendue. En 1948, elle intente un procès aux héritiers de Gringoire et Je suis partout, qui ont publié ces notes dont j'ai parlé tout à l'heure, assorties de commentaires de Philippe Henriot. Là, c'est pareil, un torrent... d'injures antisémites, et elle obtient satisfaction sur le fait qu'on a publié sans ses autorisations, etc. Mais il y avait un troisième chef d'accusation que son avocat avait posé, qui était provocation au meurtre. Les juges refusent ce chef d'accusation en disant « oui, on ne sait pas », etc. En 1953, jugement qui contredit le précédent, puisque l'assassin bénéficie des circonstances atténuantes. Donc, la succession de ces trois procès montre que finalement, bien sûr, un des assassins a été jugé, mais c'était l'exécutant. C'est la milice, c'est les hauts responsables de la milice qui l'ont. Et qu'en fait, alors Pétain, les idéologues antisémites, ces hommes, en fait, justice n'a jamais été vraiment rendue. Enfin, on sait maintenant les circonstances. Mais voilà, et la succession de ces trois procès montre bien les péripéties mémorielles de l'époque. parce que l'affaire Janzet, comme ça s'est occupé, comme ça s'est appelé,
intitulé, oui.
C'est une affaire franco-française. Il a été arrêté par les Francs, par Vichy, condamné par Vichy, maintenu en prison par Vichy, assassiné par la milice française. Bien sûr, c'était l'occupation allemande. Mais après, les Allemands ont dit que, alors je ne sais pas, qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'étaient pour rien dans l'assassinat. Donc c'est bien un assassinat à la milice, comme Mandel, comme Victor Bache par ailleurs. Mais comme le dit Antoine Pro, Mandel et Janzet ont été les deux responsables du Front populaire à qui Vichy a fait payer cet engagement-là.
Oui, c'est une histoire qui nous dit l'antisémitisme français, en fait.
Voilà. Et français de vieille souche. Puisque dès son entrée dans la vie publique, en 1932, dès sa première élection comme député, et là, les journaux locaux, enfin, il y a une campagne, et se déchaînent déjà sur cette thématique-là. Ça, dès qu'il entre dans la vie publique, il est désigné comme le juif emblématique.
Alors, je vais vous poser une dernière question à laquelle je vous demanderai une réponse rapide, car le temps file. Pourquoi est-ce que Janzet n'est le héros d'aucune communauté, au fond ?
Ben, je crois qu'il n'entre dans aucune case, en effet, puisqu'il n'était pas gaulliste, enfin résistant, puisqu'il était en prison, même si en prison, il a fait des actes de résistance. Par exemple, les notes du procès de Rion, Blum et les autres, au moment du procès de Rion, viennent à la prison de Clermont-Ferrand. Et c'est mon père qui rédige, alors je ne sais pas comment ça passe, mais il rédige pour l'extérieur les notes du procès qui vont être produites par le journal La Montagne et diffusées. Et puis il a rédigé aussi quelques documents pour des mouvements de résistance. Bon, ça, c'est des historiens qui l'ont montré. Donc il est
d'une certaine. Il n'est pas gaulliste, il n'est pas.
Il n'est pas. C'est pas la mémoire communiste.
Il n'est pas juif vraiment.
Voilà. Et donc il n'entre dans aucune case. Et en plus. Comme je viens de le dire, c'est une histoire franco-française. Donc c'est toute la difficulté que la France a eu à reconnaître ce qu'a été la nature même du régime de Vichy.
Merci beaucoup, Hélène Mouchardier, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Je rappelle que le livre de Janzet, Souvenirs et Solitude, qui n'est pas disponible aux éditions de l'Aube pour le moment, sera bientôt réédité en livre de poche chez Belin. Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous à Blois pour les rendez-vous de l'histoire sur le thème « Faire justice » le 16 octobre 2010. Une communication sera consacrée au procès de Janzet. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que vous pouvez retrouver sur le site de RCJ, www.rcj.info ou podcaster via www.mémoirevive.net. À la semaine prochaine pour un nouveau Mémoire vive. Bon dimanche.